Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux. Ce matin, nous allons nous focaliser sur les derniers versets de ce chapitre, mais on va relire le chapitre en entier, tellement il est beau. Hébreux chapitre 1, commençons donc la lecture au verset 1, et voici la parole de Dieu. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Il est devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Et encore, « Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils ». Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, il fait de ses anges des esprits et de ses serviteurs une flamme de feu. Mais il a dit au Fils, « Ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit « Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied ». Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Et jusque-là, la lecture de la parole de Dieu. Ce premier chapitre de cette lettre aux Hébreux est sans doute le chapitre dans le Nouveau Testament qui présente le mieux la divinité du Seigneur Jésus-Christ avec beaucoup de profondeur, beaucoup de ferveur. D'autres chapitres sont aussi remarquables dans leur présentation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. On peut penser à Jean chapitre 1, par exemple, ou le premier chapitre de la lettre de Paul aux Colossiens. Mais ce chapitre, ce premier chapitre de la lettre aux Hébreux, dépasse les autres pour le poids considérable de son témoignage en faveur de la nature divine du Seigneur Jésus-Christ. Et cela vient du fait qu'il cite l'Ancien Testament. À cette reprise, il s'appuie sur le témoignage de l'Écriture. Et dès le début, Hébreux chapitre 1 nous présente le Seigneur Jésus-Christ dans la relation la plus étroite avec Dieu le Père et avec son œuvre. Le Seigneur Jésus-Christ est appelé héritier de toutes choses. Par lui, Dieu a créé l'univers. Il est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Versets 2 et 3. Au verset 6, on voit les anges l'adorer. Et on sait par le témoignage des anges que seul Dieu doit être adoré. Rappelez-vous l'ange qui reprend l'apôtre Jean en Apocalypse 19. Mais s'il reste le moindre doute sur le fait que le Fils est Dieu, cela est dissipé quand nous lisons au verset 8 ces paroles « Ton trône, ô Dieu, est éternel. » Et c'est le Père qui parle au Fils. C'est un grand passage trinitaire. Le Fils est appelé Dieu. Et c'est pourtant aussi son Dieu qui lui parle, c'est Dieu le Père qui lui parle. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Mais le verset 10 commence notre passage ce matin. Et c'est le point culminant de toute cette présentation. Ici, l'Esprit Saint, à travers l'auteur de cette lettre, nous informe de ce que le Père dit au Fils. Verset 10 et suivant. « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront point. » Il est de tradition, quand on parle des attributs de Dieu, de distinguer entre ses attributs transmissibles et ses attributs intransmissibles. Certains des attributs de Dieu qu'il peut communiquer et qu'il nous communique sont, par exemple, la bonté, la miséricorde, la sainteté. Mais d'autres attributs font partie intégrante de la divinité de Dieu. Ils ne peuvent pas être communiqués à des créatures mortelles. Et dans ces versets, ce sont des attributs incommunicables qui sont attribués au Fils. Des attributs comme l'éternité, la toute-puissance, l'immuabilité. En fait, l'auteur veut nous ramener à Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et ici, cette œuvre de création est attribuée au Seigneur Jésus-Christ, avec toutes les implications de la divinité qui l'accompagne. On observe aussi un contraste entre la création et le Fils de Dieu. L'auteur nous dit que le ciel et la terre vont périr. Les grandes œuvres de Dieu dans la création vont prendre fin. La majesté des montagnes, le grondement d'une chute d'eau, la beauté d'une vallée, toutes ces choses vont suivre leur cours et finir par périr. Comme un vieil ensemble de vêtements, ils vont s'user, et ils s'usent encore aujourd'hui. Les étoiles utilisent leur hydrogène, la matière est convertie en énergie, il y a une perte. Notre univers est un univers qui meurt, qui va vers sa fin. Et si cela est vrai de la création de Dieu, cela est encore plus vrai du travail de l'homme. Les plus hauts gratte-ciel vont tomber, les barrages vont éclater, les plus grandes réalisations seront oubliées. Et tout cela ne va pas seulement se produire au cours de l'histoire, avec la dégradation naturelle, la pourriture, mais cela se fera aussi de manière soudaine, quand le Fils de Dieu reviendra à la fin de l'histoire pour juger le monde. Il va l'enrouler comme un vêtement, comme un manteau. Il va l'échanger selon sa volonté pour un nouveau vêtement, pour un nouveau monde. L'apôtre Pierre écrit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 10, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront. » La terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. L'apôtre Paul écrit en 1 Corinthiens 7, verset 31, « La figure de ce monde passe. » Mais concernant le Fils de Dieu, on lit le contraire. Comme le dit l'auteur ici, « Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et tes années ne finiront point. » Difficile d'imaginer une représentation plus emphatique de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ puissant, digne de notre foi. Et pour continuer sa présentation, l'auteur donc va citer encore l'Ancien Testament. On a déjà vu les 5 premières citations. Et chaque fois qu'on voit une citation de l'Ancien Testament, il est bon de regarder son contexte original, parce que l'auteur du Nouveau Testament a souvent le contexte à l'esprit. Et cela est vrai pour les versets 10 à 12, Une longue citation du psaume 102. Et le psaume 102 a pour sous-titre « Prière d'un malheureux » lorsqu'il est abattu, qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Et c'est le premier grand point, le psaume 102. Lamentation et réjouissance. Et dans la première moitié de ce psaume 102, l'auteur déplore justement la décomposition de la vie, la faiblesse, finalement l'échec de toute chose créée, en particulier la nature humaine. Psaume 102, à partir du verset 4 par exemple, « Car mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont enflammés comme un tison, mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe, j'oublie même de manger mon pain. » Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent. Et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain. Je mêle mes larmes à ma boisson. Et en particulier, l'auteur voit sa mortalité comme le résultat de la séparation de l'homme avec Dieu à cause du péché. Dans le psaume 102, il écrit à cause, verset 11, « À cause de ta colère et de ta fureur, tu m'as soulevé et jeté au loin. Mes jours sont comme l'ombre à son déclin et je me dessèche comme l'herbe. » L'instabilité, la faiblesse, la mortalité de l'homme à cause de son péché constitue le contenu de cette lamentation au début, dans la première partie de ce psaume. Ce sont des cris qui se retrouvent sur les lèvres de tous ceux qui vivent sur terre pendant un certain temps. Nos jours passent comme de la fumée, nos os cèdent. Chacun d'entre nous doit tenir compte du fait que la mort nous attend. Même en vivant, nous desséchons comme l'herbe. Là un jour, et plus là le lendemain. Le psalmiste, en écrivant ce psaume 102, semble être motivé par la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. Et dans l'amertume de la défaite, il mange les cendres, il mélange sa boisson avec ses larmes. Et pendant d'autres vies, on connaîtra nous aussi les railleries, l'oppression d'ennemis qui semblent trop forts pour nous. Et dans la deuxième moitié du psaume, cet homme qui se lamente lève les yeux pour voir Dieu. Et là, il trouve une grande espérance. Psaume 102, je ne cite que quelques passages à partir du verset 13. « Mais toi, Éternel, tu règnes à perpétuité. Tu te lèveras, tu auras pitié de Sion. Oui, l'Éternel rebâtira Sion, il se montrera dans sa gloire. » Bien que tout semble perdu dans cette vie, bien que les difficultés, même la mort nous attend, bien que la pire calamité apporte la destruction, l'homme qui fait confiance au Seigneur le voit dans son règne éternel, son règne de puissance. Il voit son caractère qui ne change pas, qui ne peut pas changer. Et là, il trouve l'espoir. Comme Dieu le dit en Ésaïe 51, verset 6, « Les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » Malgré tout ce que nous pouvons perdre dans cette vie, nous avons par la foi en Jésus-Christ un salut qui est éternel, qui est sûr. Et le psaume 102, c'est dans ce sens que le psaume 102 continue. Et avec les paroles de ce premier chapitre d'Hébreux, il approche de sa fin. Il se rappelle que Dieu a créé toutes choses. Ils durent au-delà de leur fin. Comme le cite l'auteur de cette lettre au verset 11, « Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, ils seront changés. Mais toi, tu restes le même. Et tes années ne finiront point. » L'auteur de cette lettre veut montrer la supériorité du Seigneur Jésus-Christ sur les anges, la supériorité de la nouvelle alliance sur l'ancienne. Et ce contraste est inévitable à la lumière de ces versets. Ces choses étant vraies, le Fils est digne de toute notre confiance. Nous serions complètement fous de ne pas tourner vers un si puissant Sauveur pour notre salut. Mais dans le psaume 102, ces paroles sont attribuées à Yahvé, le nom personnel, le nom de l'alliance de Dieu dans l'Ancien Testament. Et ce qui est frappant dans leur répétition ici, dans Hébreux chapitre 1, c'est qu'ils sont ici parlés par Dieu à Jésus. Ils s'adressent au Fils. Le Père s'adresse à lui comme Seigneur. Et à la lumière du Nouveau Testament, on voit les deux moitiés du psaume 102 s'appliquer au Seigneur Jésus-Christ. Il est l'homme affligé qui déverse sa plainte devant son Père. Et alors qu'il fait face, qu'il prend la croix, c'est sa voix qu'on entend. Cette voix qui crie « Mes jours s'évanouissent en fumée, mes os sont enflammés comme un tison, mon cœur est frappé, se dessèche comme l'herbe, chaque jour mes ennemis m'outragent. » Le Seigneur Jésus, dans son humanité, savait ce que c'était de décourter ses jours, de mourir trop jeune, si on peut dire, d'être affligé, d'être méprisé par les hommes, d'être abandonné par ses amis. Crucifié dans la honte, il est mort d'une mort maudite, avec toute l'amertume, toute l'obscurité qu'un homme peut éprouver. Et la seconde moitié du psaume constitue la réponse du ciel au cri d'angoisse du Seigneur. Oui, en tant qu'homme maudit, rejeté, mort sur la croix, mais aussi en tant que fils ressuscité, élevé dans la gloire, Dieu lui dit, psaume 102, verset 13, « Toi, éternel, tu règnes à perpétuité. » Oui, le monde t'a crucifié, mais moi, je t'ai intronisé, je t'ai placé sur le trône. Ils périront, mais tu subsisteras. Ils s'useront tous comme un vêtement, tu les changeras comme un habit, ils seront changés, mais toi, tu restes le même. Tes années ne finiront pas. Un commentateur explique, c'est Arthur Pink dans son commentaire qui écrit, « C'était la réponse de Dieu à la prière du Seigneur Jésus-Christ qui se voyait être fauché à la fleur de l'âge. En tant qu'homme, dans la résurrection, il a reçu la vie pour toujours. Est-ce qu'on le comprend vraiment? Depuis près de 2000 ans, depuis la croix, des hommes sont nés, ils ont vécu, puis ils sont morts. Des hommes d'État, des empereurs, des rois sont apparus sur la scène, ils sont décédés. Mais il y a un seul homme glorieux qui traverse les siècles, qui, dans sa propre humanité, jette un pont sur ces 2000 ans. Il n'a pas été consumé par la mort, il n'a même pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Psaume 102 est un merveilleux portrait de ce que sont la résurrection et l'ascension du Seigneur Jésus-Christ. Et on peut voir pourquoi l'auteur de cette lettre aux Hébreux a tourné vers ses pensées vers ce grand psaume. Mais dans le verset 13, on trouve un autre grand psaume. Et c'est la septième citation de l'Ancien Testament dans ce chapitre 1 que l'auteur utilise pour montrer la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Verset 13, nous sont les paroles d'ouverture du psaume 110. Auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est le deuxième grand point. Psaume 110, assis à la droite de Dieu. Si les paroles du psaume 102 sont la réponse verbale de Dieu à la croix, dans cette citation du psaume 110, on voit l'action de Dieu qui accompagne ces paroles. Cette intronisation est en accord avec ce qui a été dit plus tôt, à la fin du verset 3. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Le psaume 110, vous le savez sans doute, est le psaume qui est le plus cité dans le Nouveau Testament. Et cela en raison, en particulier, de ce qu'il nous dit sur le lieu où le Seigneur Jésus-Christ est allé quand il a quitté ce monde, quand il a été élevé dans la gloire, et aussi ce qu'il fait maintenant. L'image de lui en étant assis est une image qui provient de la cour orientale où le roi était assis sur son trône et ses serviteurs se tenaient devant lui pour montrer leur respect, mais aussi pour mettre en évidence sa suprématie sur eux. Et c'est l'image que la Bible nous donne de la salle du trône, dans des passages comme Apocalypse chapitre 7 par exemple, où les anges, les vieillards, les créatures se tiennent devant le Dieu souverain qui est sur son trône. Ils l'adorent, ils sont prêts à faire sa volonté. Quand quelqu'un entend qu'on lui dit « Assieds-toi à ma droite », cela signifie qu'il reçoit un grand honneur, qu'il a une dignité particulière. Cela met en avant le rang, le pouvoir, l'autorité. Le fait que le Seigneur Jésus-Christ soit assis sur le trône de Dieu ne signifie pas qu'il est inactif. Au contraire, il est très attentif pour les affaires de son peuple, de son troupeau. Étant assis, il exerce son autorité sur et pour le bien de l'Église. On étudie le livre des Actes les mercredis soirs. Quand on parcourt le livre des Actes, on voit à quel point le Seigneur Jésus-Christ, élevé dans la gloire, assis sur son trône, était actif pour le bien de l'Église primitive. Il a envoyé l'Esprit-Saint pour fortifier ses messagers humains, pour amener d'autres à la foi, comme en Actes chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Quand Étienne, le premier martyr, a fait face à la foule sanguinaire, il s'est écrié, Actes 7, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts, le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Jésus s'est tenu pour recevoir les siens dans les cours célestes. Lorsque Saul de Tarse s'est dirigé vers Damas pour y harceler les croyants, le Seigneur Jésus ressuscité lui est apparu dans toute sa gloire. Il a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » De plus, le Seigneur commande des anges, il les envoie au service de son peuple, comme lorsque Pierre a été délivré de la prison par un ange, acte 12. Et c'est ce que l'auteur de la lettre nous rappelle au verset 14, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? Les anges sont des serviteurs envoyés, et c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui envoie ses serviteurs. C'est un réconfort de savoir que notre Seigneur est à l'œuvre pour son peuple, pour son Église, depuis son siège céleste où il exerce l'autorité divine. On ne saura peut-être jamais combien de fois, quand ou à quel moment il a envoyé des anges pour nous servir quand on était dans le besoin ou pour contrecarrer des ennemis, des antagonistes ou pour renouveler notre volonté, pour nous guider. On sait que, comme le prophète Élisée, on ne sait pas combien de fois on a reçu une aide invisible de la part de ses serviteurs que le Seigneur envoie pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Mais c'est un réconfort de le savoir. Bien sûr, le Seigneur envoie le Saint-Esprit pour nous enseigner, pour enseigner à son sujet, pour éclairer notre esprit dans la connaissance de Dieu, pour renouveler notre volonté, pour nous guider sur le chemin de la justice. On sait que le Seigneur intercède pour nous auprès du Père, qu'il assure notre acceptation dans la présence de Dieu, puisqu'il nous représente, comme notre souverain sacrificateur. Il sanctifie nos requêtes, il plaide nos causes depuis ce siège à la droite de Dieu, ce siège de faveur, ce siège d'autorité. Il est occupé pour le bien de son peuple, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante, comme le dit le verset 3, est aussi celui qui soutient notre foi par son intercession pour nous. Comme le Seigneur Jésus l'a dit à Pierre avant son temps de faiblesse en Luc 22, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Luc 22, 31. Le texte d'Hébreu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ s'est assis à la droite de Dieu jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Dans les temps anciens, un général victorieux plaçait son pied sur la gorge d'un ennemi qui était vaincu. Et on peut voir cela en Josué, par exemple, Josué 10, verset 24. Josué a demandé à ses commandants de faire cela au roi de Canaan qu'il avait vaincu. Et qui sont les ennemis du Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Paul nous dit en 1 Corinthiens 15, verset 24 et suivant, « Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité, toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. La malédiction de la loi, le péché, Satan lui-même, les puissances de ce monde, la mort, la tombe, ce sont tous des ennemis du Seigneur Jésus-Christ. Au cours de son ministère sur terre, le Seigneur Jésus-Christ a progressé dans les rangs de son ennemi. Il a chassé les démons, il a guéri de la maladie, il a exposé l'hypocrisie, il s'est opposé aux faux enseignements. Il a humilié les fiers, il a nettoyé le temple des vendeurs. Pendant tout ce temps, il a appelé des pécheurs à la foi et à la repentance. Et c'est surtout dans l'expansion de l'Évangile que le Seigneur triomphe maintenant de ses ennemis, quand des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, viennent à la foi en lui. Et à la fin de l'histoire, il n'y aura plus d'ennemis qui pourra tenir debout. Apocalypse 20, verset 14, « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. » C'est la seconde mort, l'étang de feu. Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Le Seigneur Jésus-Christ est assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, jusqu'à ce que ses ennemis deviennent son marchepied. C'est le but de son activité. Et après cela, il présentera toutes choses à Dieu le Père. Il règnera à jamais. Comme le dit Apocalypse 11, verset 15, « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. » Alors que dire pour conclure? Nous avons un sauveur suffisant. L'auteur de cette lettre termine son exposition sur la suprématie, la déité du Seigneur Jésus-Christ. Dans ce chapitre où il cite à 7 reprises l'Ancien Testament pour prouver la suprématie du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout à fait approprié que cette description se termine avec le Seigneur Jésus-Christ qui est assis à la droite de Dieu. Parce que c'est là qu'il est maintenant. Il règne comme Seigneur au-dessus et au nom de son épouse, l'Église. Il est un sauveur suffisant. Il est un sauveur digne de notre confiance, digne de notre louange. On voit dans ces versets trois attributs divins appliqués au Seigneur Jésus-Christ. L'éternité, le pouvoir omnipotent, l'immuabilité. Et chacun de ces attributs nous donne de bonnes raisons de lui faire confiance en tant que notre Sauveur. Il était là depuis l'éternité. Il a toujours été là. Il était là quand les mondes sont créés. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. Les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Voilà quelqu'un qui ne bouge pas. Voilà un rocher sur lequel on peut s'appuyer. Et pourtant, il est venu dans ce monde comme l'un d'entre nous. Il a pris sur lui notre humanité afin de faire une place pour l'homme dans le ciel. Même maintenant, il ouvre une porte pour tous ceux qui viennent à lui par la foi. Mais le Seigneur est aussi celui qui règne avec une puissance omnipotente. Il triomphe de tous les ennemis qui s'opposent à son règne, des ennemis qui peuvent aussi nous affliger. Et pourtant, c'est par la plus grande faiblesse qu'il a porté le fardeau le plus lourd, il a porté le poids de nos péchés. Et c'est parce qu'il s'est soumis à la croix dans toute son agonie, dans sa honte, que Dieu l'a élevé à la position de gloire, à la position d'autorité. Sur la croix, le Seigneur Jésus-Christ a montré qu'il était digne de régner avec puissance et pour toujours. Et Dieu l'a glorifié. Il l'a couronné Seigneur de tous. Et de sa position à la droite de Dieu, il est capable de nous aider dans le besoin, de nous sauver de manière parfaite. Puis le Seigneur est immuable, c'est-à-dire qu'il ne change pas, qu'il ne peut pas changer. Verset 12, « Toi, tu restes le même, tes années ne finiront point. » Plus tard dans la lettre, au chapitre 13, verset 8, l'auteur dira « Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. » Et c'est pour cela que nous pouvons toujours nous tourner vers lui en toute confiance, parce qu'il ne change pas. Il ne changera jamais d'avis sur nous. Il ne perdra jamais son pouvoir de nous sauver. De quoi une âme a-t-elle besoin dans le temps ou dans l'éternité qui ne peut pas être trouvée dans le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on a besoin de pardon pour nos péchés? Est-ce qu'on a besoin de réconciliation avec Dieu? Alors regardons au Seigneur Jésus-Christ, exalté, élevé dans la gloire, qui a offert le sacrifice parfait une fois pour toutes, ce sacrifice que le Père a accepté. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour son peuple, il envoie de puissantes ressources pour nous aider à marcher dans ce monde avec assurance. Est-ce qu'on a des inquiétudes? Est-ce qu'on se retrouve dans des situations qui nous font peur? Rappelons-nous que le Seigneur Jésus-Christ est sur son trône. Il règne. Il est un sauveur qui prend soin de son peuple, qui prend soin de ses enfants avec sagesse, avec amour, avec puissance. Nous pouvons lui faire confiance et nous pouvons le glorifier avec nos vies. Est-ce qu'on a peur de la mort? Le Seigneur Jésus-Christ règne. Et il règne jusqu'à ce que ses ennemis soient vaincus, deviennent son marchepied. Et parce qu'il règne et parce qu'il remporte la victoire, la mort n'aura aucune emprise sur nous. Elle ne pourra pas nous retenir. De quoi avons-nous besoin? Si ce n'est que le Seigneur et Sauveur ressuscité, assis sur le trône, nous apporte tout ce dont nous avons besoin. Il n'y a rien qu'on ne puisse affronter, rien dont on pourrait manquer, rien dont on pourrait avoir besoin dans toute notre faiblesse, notre péché, notre fragilité humaine, qui ne se trouve pas en abondance en celui qui nous aime, en celui qui se donne, en celui qui règne maintenant pour toujours comme Sauveur, comme Seigneur, qui reste le même, dont les années n'ont pas de fin. Quel réconfort d'avoir un tel sauveur. C'est inutile pour les premiers lecteurs de retourner à l'ancienne alliance. C'est inutile pour nous de chercher ailleurs. Nous avons en Jésus-Christ le Fils de Dieu, fait homme, un sauveur suffisant, un sauveur parfait. Écoutons-le, suivons-le sur le chemin de la vie. Et que Dieu nous aide à être de plus en plus émerveillés devant la perfection, la gloire, la grandeur de ce Sauveur qui nous a donné, qui nous aide à être toujours plus surpris, toujours plus étonné devant cette œuvre qu'il a accomplie en son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'en retour à son amour pour nous, nos cœurs débordent d'amour pour lui. Et que nous ne cessions de chanter ses louanges. Que Dieu nous aide à méditer ces choses. Qu'il bénisse sa parole à nos cœurs. Amen.